Bonjour. Je me présente essentiellement comme enseignante en lettres histoire en lycée professionnel depuis presque 40 ans. J'ai pris ma retraite l'été dernier et j'ai toujours des activités par contre de formation, en particulier auprès du CARDI, des cahiers pédagogiques ou d'autres lieux. Je profite de ma retraite, par exemple, pour animer un dispositif financé par la région, qui est un dispositif de raccrochage de décrocheurs. Donc des activités qui sont les miennes aujourd'hui. Donc la commande, c'était la place des prescriptions dans la programmation d'enseignement, telle que vous pouvez le voir dans le programme. Alors, on m'a demandé de partir de mon enseignement, c'est-à-dire lettres histoire. J'espère cependant que cela peut ouvrir sur des réflexions plus larges que les disciplines de français, d'histoire, géographie ou d'instruction civique. Mais les exemples, effectivement, sont tirés de ma pratique jusqu'à l'été dernier. Alors, je suis repartie pour poser la problématique. Je suis repartie d'un petit schéma que j'utilisais en formation initiale avec les stagiaires, dans lesquels je leur disais voilà, il y a un certain nombre effectivement de prescriptions, référentiels, documents d'accompagnement, programmes, préconisations des inspecteurs. Et puis notre travail, eh bien, c'est de transformer cela en plan de formation, en progression, en séquence, en séance et en situation d'apprentissage. Mais ça suppose une traduction, une interprétation, une appropriation, un choix, un certain nombre de choix de l'enseignant et par conséquent de responsabilité. Et déjà, à l'époque, j'avais écrit dans ce nuage innovation, créativité, adaptation au terrain, expérimentation, recherche constante, pratique réflexive. Et donc, j'insistais beaucoup sur le fait que selon le niveau de formation qu'on pouvait avoir, être simplement ce qu'on appelle aujourd'hui quelquefois un ouvrier d'enseignement, c'est-à-dire quelqu'un qui se contente d'appliquer des prescriptions à la lettre, ou un ingénieur de la formation, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se réapproprier et créer et ce que nous souhaitons tous faire dans notre enseignement. Alors la problématique, on pourrait dire comment l'enseignant peut-il respecter la mission qui lui est confiée tout en assumant sa responsabilité de concepteur de la formation sur le terrain. On peut entrer aussi dans la question par la marge de manœuvre par rapport aux ordonnances ministérielles et rectorales, comment conserver une part d'autonomie et par conséquent de créativité pour ne pas s'ennuyer dans une fonction de simple exécutant. Et puis en tant que formateur, on entre par la problématique comment éclairer et nourrir les capacités de discernement des enseignants pour qu'ils puissent décliner les programmes à la fois dans le respect des prescriptions et à la fois avec souplesse. Alors, j'ai trouvé une problématique un peu moins soft, un peu provocatrice. Olivier Molini dit « faire le programme ou faire son métier ». De façon un peu provocatrice de dire que selon qu'on va effectivement appliquer une planification rigide et triviale, c'est-à-dire simplement appliquer les instructions ou appliquer une flexibilité qui va rendre les choses pour le coup extrêmement complexes, il y a une énorme différence. Alors je vais très rapidement évoquer les termes que je vais employer, d'abord pour dire qu'il y a deux sens de la prescription, le sens dans lequel je vais l'employer, le premier sens, le sens strict, c'est-à-dire que c'est une injonction de faire qui est émise par une autorité. Néanmoins, aujourd'hui, on trouve une définition, chez les ergonomes, une définition de plus en plus large de la prescription, puisque pour eux, la prescription est multiple. Ce sont toutes les indications qui nous arrivent pour l'exercice du métier. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien la pression d'un inspecteur que les demandes d'un chef d'établissement, que les attentes des parents, que les souhaits des élèves, voire même les auto-prescriptions, c'est-à-dire ce que nous nous imposons à nous-mêmes quand nous construisons notre enseignement. Le programme, on parle toujours aujourd'hui en enseignement général, en lycée professionnel de programme, mais on va voir que c'est plus du tout dans le sens où il était employé, le sens strict de syllabus, c'est-à-dire une liste de thèmes, de savoirs qui seraient pris en eux-mêmes et non pas comme une ressource pour agir. La logique aujourd'hui en enseignement général et en lycée professionnel est tout à fait de l'ordre du curriculum. Le référentiel, lui, on l'a vu ce matin, est davantage utilisé dans des enseignements professionnels ou dans le milieu professionnel. C'est quelque chose de plus ponctuel, puisque c'est les performances qu'on attend de l'élève, du futur professionnel, à la fin de sa formation. Et donc là, on est plus dans un domaine social et professionnel, pragmatique, que dans le curriculum. Alors le curriculum, il est extrêmement vaste, on va le voir, puisque à la fois, il comprend le programme, les thèmes qui sont à traiter, les objets d'enseignement, comme on dit aujourd'hui, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les visées éducatives, les contenus à enseigner, mais les progressions, l'organisation, les situations d'apprentissage et d'enseignement, les méthodes pédagogiques, les activités, les moyens et les modalités de l'évaluation, comme les compétences visées. Et puis on a pris l'habitude effectivement de définir le curriculum prescrit, celui qui est mis en œuvre, celui qui va être évalué, et sans compter le curriculum caché ou implicite, c'est-à-dire tout ce que les élèves sont amenés à apprendre et à maîtriser alors que ce n'est pas explicitement exprimé, mais que finalement c'est indispensable pour pouvoir fonctionner dans les apprentissages prévus. Quant à la progression, elle n'est que le programme mis réparti dans le temps sur l'année scolaire. Alors, ce qui définit notre obligation d'application du programme, hein, c'est la charte des programmes de 92 qui nous explique à la fois que c'est un texte officiel, une référence nationale, qui permet le contrat d'enseignement et qui permet d'évaluer les élèves dans des évaluations nationales, mais c'est aussi le cadre dans lequel il y a des choix pédagogiques, aussi bien pour l'enseignant que pour l'équipe pédagogique, et la définition des compétences que les élèves doivent acquérir. Alors je reviens pas sur la différence entre savoir et compétence, simplement pour dire que avec en particulier le socle commun, on est passé d'un enseignement linéaire et cumulatif à une acquisition spiralaire des compétences qui, comme ça nous l'a été expliqué ce matin, sont reprises à plusieurs fois sur les 3 années ou les 2 années, si on parle de CAP de formation, pour être approfondi, complexifié et aboutir à une maîtrise au moment de l'examen final. Alors je suis partie de 2 exemples, un exemple en français et un exemple en histoire, mais ces exemples n'étant là que pour poser des questions qui, à mon avis, peuvent se poser dans d'autres disciplines, mais vous le direz sûrement par la suite. Donc le premier exemple, ben, c'est le programme de français. Alors le code couleur, hein, c'est que tout ce qui concerne simplement la citation des textes officiels est en bleu, et que ce qui est en jaune, ce sont mes prises de position personnelles qui n'engagent que moi et qui, bien entendu, ouvrent à discussion. Donc, l'introduction du programme de français met en avant la visée de cet enseignement et les objectifs entre la sortie du collège, c'est-à-dire le socle commun, et une poursuite d'études post-bac ou une entrée dans la vie professionnelle. On voit que dans ces prescriptions et dans ces objectifs, on a à la fois des prescriptions très scolaires, la maîtrise de l'expression orale et écrite, ou la possibilité de poursuite d'études ou la construction des savoirs, mais on a aussi un certain nombre d'indications qui relèvent de valeurs, de compétences sociales et psychologiques. Les valeurs, le respect d'autrui, la réflexion sur soi-même, sur le monde, l'affirmation de ses choix. Ensuite, on a 4 parties, hein, les les programmes sont conséquents dans nos disciplines. La première partie s'appelle finalité. Elle rappelle les quatre compétences que nous avons à développer auprès de nos élèves. Alors les trois premières n'étonneront personne, hein, le français, c'est l'oral, l'écrit et la lecture. Par contre, l'expression identité culturelle revient plusieurs fois et je pense qu'elle mérite qu'on s'y arrête un petit peu. On nous parle de construction ou d'affirmation de l'identité culturelle. Alors bien sûr, c'est la culture générale, c'est la construction de la personnalité de l'adolescent. Mais on sent bien aussi que culture française, européenne, on a ici une dimension politique implicite mais prégnante. Si on considère le nombre de fois où on trouve l'expression aussi bien en français qu'en histoire-géographie ou en instruction civique. Et je dirais que ces indices lexicaux nous rappellent, comme dirait Chervel, que les contenus d'enseignement s'inscrivent dans un contexte politique précis. Et que là, on sent très nettement dans ce texte que des finalités assignées au projet éducatif, c'est de fondre dans une matrice commune les différences sociales et culturelles des élèves en tablant sur les vertus intégratrices de l'enseignement. Ensuite, il y a une affirmation de la nécessité du décloisonnement, alors que j'appellerais externe, c'est-à-dire avec les autres disciplines, les arts, bien sûr, les arts appliqués, ou l'histoire de l'art, l'histoire-géographie, l'éducation à la citoyenneté, voire les langues ou la philosophie. Alors, on note qu'en lycée professionnel, le décloisonnement externe avec les autres disciplines est favorisé d'abord par la polyvalence, puisque déjà le professeur de français enseigne plusieurs disciplines, et également par les projets dont on parlait ce matin. La polyvalence, elle est aussi avec une transdisciplinarité vers les projets techniques et les disciplines techniques. Et puis il y a un troisième point qui est indiqué dans les finalités et qui me paraît marquer une évolution très nette dans l'enseignement du français. La phrase exacte est « situe les textes littéraires comme médiation permettant une approche de soi et du monde ». Et ce que je trouve important, c'est qu'ici la littérature n'est pas considérée comme un objet en soi, mais comme un moyen pour le jeune de se connaître, de construire sa relation aux autres et au monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de réussir sa propre scolarité, de réussir des examens, d'entrer dans une vie professionnelle ou sociale, mais il s'agit de réussir sa vie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de se construire une culture, mais de se construire à travers la culture. Et donc l'objet littéraire est utilisé ici comme moyen et pas comme fin en soi. Ce qui est, alors on va dire, assez nouveau dans l'enseignement en général, et en particulier en lycée professionnel. Les démarches, alors trois objets d'études qui sont imposés par année, donc ça en fait 9 au total, et l'affirmation de la nécessité du décloisonnement interne cette fois-ci. Alors ce qu'on appelle le décloisonnement interne, c'est l'obligation pour le professeur de mêler dans ses séances de la lecture, de l'écriture, de l'étude de la langue, de l'oral, de l'écrit, du texte intégral, des œuvres complètes, des textes courts. C'est-à-dire qu'un professeur de français n'a pas le droit de faire une séance uniquement de lecture ou uniquement d'écriture ou uniquement d'étude de la langue. Alors, on y reviendra. C'est quelque chose qui interroge aussi. On nous donne des exemples d'activités pour chacune de ces compétences, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous les donne bien séparément. Donc on a interdiction, nous, de cloisonner, mais par contre, dans le référentiel, c'est cloisonner. Alors on nous dit que c'est pour la clarté de la présentation. Oui, oui, tout à fait. C'est pour la clarté de la présentation. C'est vrai que c'est plus clair comme ça. Ceci dit, j'y reviendrai, ça devrait interroger probablement les concepteurs des référentiels. Et ça pose en fait la question des injonctions réitérées. On peut repérer comme ça dans l'enseignement, moi je prends des exemples dans mes matières, mais je suis sûre que vous en connaissez dans les vôtres, des injonctions qui sont d'autant plus réitérées, d'autant plus répétées qu'elles entrent mal dans les pratiques, qu'il y a une résistance de fait. Alors, le décloisonnement interne à la discipline, qui est d'ailleurs à l'origine de la notion de séquence d'enseignement, Cette notion est très ancienne, hein, puisque Bertrand Donnet, avec qui j'en parlais récemment, me disait que ça remontait au moins à 1938, et le terme lui-même à 1977. Et pourtant, aujourd'hui encore, régulièrement, il y a des rappels à l'ordre, que ce soit dans les textes officiels écrits, que ce soit à travers les inspecteurs. Et pour le corps d'inspection, cette résistance à appliquer strictement cette injonction, en particulier en ce qui concerne l'étude de la langue, est interprétée comme un réflexe d'autodéfense réactionnaire. On veut continuer à faire ce qu'on a toujours fait, des cours de grammaire autrefois. Un conservatisme révélateur à la limite d'incompétence ou même un acte d'insubordination, voire de la paresse. En fait, on peut se poser une question, c'est de savoir si, comme le dit Donna, l'étude de la langue et l'étude des textes littéraires nécessiteraient une approche qui convoque des pratiques langagières spécifiques. Et si le décloisonnement n'empêche pas cet apprentissage de la langue, des dispositions et des procédures. On retrouve la même chose chez Pierre Lévêque qui se pose la même question. Est-ce que intégrer l'étude de la langue, ça ne gêne pas cet enseignement? Est-ce qu'en le dispersant, ça ne le rend pas inintelligible? Alors, ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il soit impossible de façon pointilliste et impressionniste, de glisser petite remarque sur la langue quand on fait une lecture d'un texte, petite remarque sur la langue à propos de l'écriture, petite remarque, voilà. Bien sûr que c'est possible. On le fait tous les jours. Simplement, ce qu'on découvre sur le terrain, c'est que ça empêche les élèves de comprendre de façon globale un phénomène de la langue. Par exemple, la différence entre le discours direct ou indirect. Et le fait de ne pas avoir le droit de faire de cours d'études de la langue en une fois, hein, sur un point précis, eh bien, sur le terrain, fait que l'appropriation par les jeunes de ces technique et de cette connaissance est difficile, à tel point, dit d'ailleurs Pierre Lévêque, que cet enseignement, bien que les élèves en aient très besoin, est en plein dépérissement, parce que faute d'arriver comme ça à l'instiller de façon pointilliste, eh bien, on a tendance à ne plus du tout, à renoncer carrément à enseigner la langue aux élèves de lycée professionnel. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut absolument désobéir, bien qu'on le verra à l'occasion, je le fais, mais je pense qu'une résistance aussi persistante, en tout cas, depuis le temps, mérite d'être interrogée avant d'être condamnée. On pourrait parler aussi de l'individualisation de l'enseignement. Les premiers textes remontent à 1920. Je pense que ce n'est pas par manque d'intérêt pour l'individualisation que cela entre si peu dans nos pratiques, mais parce que sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Face à une classe de 30 élèves avec des niveaux extrêmement hétérogènes, construire des séances de travail individualisées, c'est possible. Au long cours, c'est difficile, ça demande une solide formation, ça demande beaucoup d'expérience, et je pense que c'est cette difficulté qui explique la difficulté de mise en place, et pas forcément de la mauvaise volonté de la part des enseignants. Ce que je veux dire par là, c'est que si les problèmes perdurent, c'est peut-être qu'ils sont mal posés, et pas seulement que les professeurs y mettraient de la mauvaise volonté. Voilà, la quatrième partie donne les contenus et rappelle les injonctions incontournables. Les objets d'études sont obligatoires, les compétences à acquérir aussi. Et puis ce qui relève de la liberté pédagogique de l'enseignant de français, bah, c'est l'ordre dans lequel il va aborder les séquences et le nombre de séquences, quoique on nous conseille deux séquences par thème d'études, trois thèmes d'études, si c'est bon. Finalement, on nous impose aussi les trois problématiques par objet d'étude, et on voit donc que la marge de manœuvre est assez mince. Les documents dont je viens de parler sont accompagnés d'autres documents qu'on appelle des documents d'accompagnement, et en particulier un que je trouve très intéressant, puisqu'il se donne la peine en octobre 2010 de reformuler le programme de mai 2009. Comme si on nous disait un an et demi après, vous n'avez pas bien compris, là on va vous réexpliquer. Donc, on insiste à nouveau sur la liberté pédagogique de l'enseignant, qui consiste toujours à savoir dans quel ordre il va prendre les trois séquences en question, enfin les trois thèmes d'étude. Par contre, on nous précise bien que l'étude d'une œuvre longue, c'est vraiment une œuvre longue, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'étudier des nouvelles. J'en reparlerai. En lycée professionnel, quand on se trouve face à des élèves, en particulier dans le milieu industriel, des élèves qui n'ont jamais lu un livre, qui n'aiment pas lire, qui posent, la première question qu'ils posent quand on leur dit on va étudier tel livre, c'est toujours de dire combien de pages. Voilà. Quelquefois, il m'arrive même d'être obligé de dire si, un livre, vous savez, c'est un objet parallélépipédique. Et puis, alors, quand on ouvre, il y a des petits signes noirs sur une page blanche. Et on a l'impression que c'est complètement exotique pour eux. Et je reconnais que je fais partie des enseignants qui aimaient bien commencer l'année scolaire par l'étude de quelques nouvelles, parce que c'est de l'œuvre intégrale. Et en même temps, ça permet d'embrayer ensuite sur un roman court, puis finir l'année peut-être sur des romans plus longs. Donc la nouvelle, elle est proscrite, c'est terminé, on n'y a plus droit. Par contre, il faut attaquer des œuvres longues. On nous conseille par exemple en seconde professionnelle Les Misérables. Mais oui. Et on nous dit, oui, mais alors quand on explique que des élèves de seconde professionnelle ont du mal à lire Les Misérables, on nous dit, non, mais c'est pas grave, vous choisissez des passages dans l'œuvre que vous leur faites étudier et vous leur racontez ce qui se passe entre. Très bien. Et voilà. Alors moi, je parlerai tout à l'heure de ce qu'on appelle les croyances pédagogiques. Voilà. En tant qu'enseignante, bon, moi, j'ai une croyance pédagogique, c'est qu'il vaut mieux une œuvre courte que l'élève lit vraiment de la première à la dernière ligne, plutôt qu'une œuvre aussi ambitieuse et magnifique que Les Misérables, dans lesquelles le professeur va choisir un parcours, et etc. Voilà. Donc ça fait partie des croyances. Je ne dis pas qu'il y ait de base scientifique qui puisse étayer ma position. C'est simplement une croyance pédagogique qui fait que je vais résister là à ce qu'on m'impose, hein, c'est-à-dire une œuvre intégrale. Deuxième chose qu'on m'impose et à laquelle je me plie, mais qui ne me satisfait qu'à moitié, c'est qu'on a le droit d'étudier des œuvres intégrales ou le parcours dans une œuvre intégrale telle que je viens de le présenter ou un corpus de texte. Mais on n'a plus droit au texte seul. Bon, c'est pas trop difficile de les mettre en corpus. Je suis pas sûre qu'il y ait une justification précise. En tout cas, l'enseignant de terrain ne la voit pas forcément. Bon, on nous explique la possibilité de faire alterner des séances majeures de 6 semaines avec des séances mineures de 3 semaines. Bon, on est dans la technique. La logique des trois problématiques, par contre, est très intéressante. On nous les impose, ces trois problématiques. Et on verra tout à l'heure que quelquefois, c'est problématique, dans l'autre sens du terme. Mais la logique est très intéressante. C'est-à-dire que la première problématique sur chaque thème part des représentations du jeune. Et puis la troisième problématique ouvre sur une réflexion quelquefois quasi philosophique, en tout cas culturelle, et on passe au milieu par une problématique d'ordre littéraire. Et puis on nous rappelle l'esprit du nouveau programme, à savoir, qui est très positif aussi, à savoir que les techniques ne doivent jamais être utilisées ou apprises pour elles-mêmes, mais au service de la lecture et de la compréhension de la langue. Et puis on nous rappelle l'enjeu majeur de ce que j'appellerais la métacompétence, hein, toutes ces compétences dans mes disciplines comme dans les vôtres, dans toutes les disciplines, c'est bien de maîtriser les outils d'une citoyenneté du 21e siècle, c'est bien de construire des jeunes citoyens capables de prendre leur place dans notre société. Alors on le voit, la tension est grande, hein, entre les prescriptions strictes et une certaine liberté d'interprétation. Et je poserai là une autre question politiquement incorrecte, c'est les modes subis par les enseignants et ce que j'appellerais les injonctions fluctuantes. En 40 ans de métier, j'en ai vu quand même passer pas mal. Par exemple, en troisième, la saga de la dictée, c'est tout, c'est une véritable aventure. J'ai connu dans ma jeunesse, hein, donc il y a fort longtemps, j'ai connu la dictée obligatoire, ce qui était logique, hein, puisque il y avait une dictée à l'épreuve d'examen, donc il était logique qu'on entraîne les élèves à, voilà, une épreuve finale. Mais alors même que la dictée était toujours présente au brevet des collèges, elle est devenue interdite. Et j'ai aussi connu la période des dictées sous le manteau, des dictées qui ne devaient jamais figurer au cahier de texte officiel parce que la dictée était interdite. alors qu'elle existait à l'épreuve d'examen. Alors après, on l'a tolérée. Actuellement, je dirais qu'elle est tolérée à condition d'être un petit peu revisitée, rénovée. Les œuvres intégrales, je le disais tout à l'heure, hein, le parcours dans l'œuvre, les progressions qui peuvent être chronologiques, thématiques, en particulier en histoire-géographie ou par type de texte. Voilà une mode qu'on a connue pendant toute une période. Il fallait étudier les textes par type. On étudiait le texte informatif, le texte narratif, le texte argumentatif. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument interdit, absolument inconcevable. Le choix des œuvres aussi, est-ce qu'on va choisir parmi des œuvres très littéraires ou des œuvres contemporaines, mais dans ce cas-là, lesquelles? Des textes non littéraires, la littérature de jeunesse peut-elle ou non entrer, Harry Potter peut-il ou non entrer dans nos classes? Certaines théories linguistiques aussi, qui sont très à la mode à certaines périodes, les périodes focalisation, la période récit-discours, puis après c'est complètement interdit parce qu'on découvre que ces théories linguistiques ne sont pas faites en fait pour être adaptées à des textes courts ou à la classe. Ou encore la théorie du nombre de documents aussi par séance, c'est intéressante. Par exemple, on a eu une période en histoire-géographie où on essayait de montrer le plus de documents possible aux élèves et actuellement on nous explique qu'une bonne séance d'histoire ou de géographie repose essentiellement sur un document. Voilà. Donc moi, il ne s'agit pas du tout, hein, dans ma position, de dire que il ne faut pas se servir de la recherche pour irriguer notre enseignement. Ça, pas du tout. Je m'y intéresse beaucoup et je m'efforce de lire le plus possible de recherches. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que il faut reconnaître que tous les chercheurs n'ont pas les mêmes positions, que la recherche, par définition, est relative et provisoire, hein, et que certaines études vont mettre en question les recherches actuelles et que donc nous imposer régulièrement l'interdiction ou l'obligation de tel ou tel point me paraît assez gênante. Alors, avec les documents d'accompagnement, on passe de l'injonction à la ressource, ressource dont on nous dit bien là qu'elle n'a rien d'obligatoire. Je pense qu'effectivement, les jeunes professeurs, les néo-titulaires utilisent beaucoup les ressources qui donnent des pistes de séquences et de supports et d'activités, les professeurs d'expérience un petit peu moins, bien qu'on les lise avec toujours beaucoup d'intérêt, parce qu'en général c'est assez bien fait. Et pour chacun des 9 objets d'étude, on nous fournit une problématique générale, l'explication des 3 problématiques qui sont imposées par objet d'étude, des bibliographies, sitographies, filmographies, des exemples d'activités. À partir de tout ça, la contrainte étant source de créativité, comment l'enseignant procède-t-il sur le terrain? Alors, on peut parler de reconception, de co-conception, on y met notre grain de sel, ou de conformation, selon qu'on reste au ras des prescriptions. En ce qui me concerne, je pense que adapter le programme, le niveau d'exigence institutionnelle, c'est l'adapter d'abord à la classe. Quel degré d'hétérogénéité on a dans une classe, dans quel milieu est-ce qu'on est, par exemple un milieu urbain ou un milieu rural, ce sera différent, les intérêts, les envies, le niveau de nos élèves, les orientations souhaitées aussi. C'est évident qu'on ne va pas appliquer un programme de la même façon pour des élèves qui à 90% souhaitent faire une poursuite d'études en BTS ou pour des élèves qui essentiellement veulent entrer dans la vie professionnelle. Et puis le style d'apprentissage au projet de l'équipe pédagogique, hein, un projet important dans une classe interdisciplinaire peut nécessité qu'on place une séquence à un endroit ou plutôt qu'à un autre, à la filière, industrielle ou tertiaire, entre un CAP, par exemple, esthétique ou ébénisterie, dans lequel la plupart des élèves ont déjà un bac général, et un CAP agent polyvalent de restauration, dans lequel la plupart des élèves ne maîtrisent pas la langue, on ne va pas adapter les prescriptions de la même façon. Aux opportunités locales aussi, les visites possibles, les spectacles, à la culture d'établissement, selon les aides didactiques dont on dispose, les structures d'encadrement, par exemple, pour un internat, les structures d'encadrement du travail personnel, est-ce que le lycée fonctionne en trimestre, en semestre, où sont placés les stages, est-ce qu'il y a un café philo qui peut prolonger une réflexion de cours, est-ce qu'il y a une semaine des arts qui peut permettre d'illustrer particulièrement tel ou tel aspect du programme. Des voyages scolaires, est-ce qu'on peut faire des dédoublements? Et puis, bien sûr, les compétences et les goûts de l'enseignant. L'enseignant n'enseignera bien que ce qu'il apprécie et ce qui l'intéresse. Et par conséquent, à partir du moment où il y a du choix sur les supports, il est normal aussi que l'enseignant prenne en compte ses choix et, je le disais tout à l'heure aussi, ses croyances pédagogiques. Donc construire la progression, c'est choisir, doser, organiser. Est-ce que je prends un manuel ou pas? Est-ce que je construis ma progression seule dans mon coin ou avec mes collègues? Hiérarchiser les priorités en jouant entre risque et sécurité. En début de carrière, on joue plutôt la sécurité. Avec l'âge, on prend le goût du risque en général. Et puis choisir les œuvres majeures de l'année, les films, les textes, les supports, les sites. Organiser les objets d'études sur l'année scolaire. François Muller nous dit bien, la progression, c'est la combinaison complexe d'invariants programmatiques, mais de variantes contextuelles, professionnelles et personnelles. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un espèce de consensus entre les prescriptions ministérielles, mais aussi les envies des élèves, les intérêts du prof, et puis les contraintes de la préparation à l'examen et de la poursuite d'études. Schwartz nous dit « Travailler, c'est mettre en débat une diversité de sources de prescriptions, établir des priorités, trier entre elles et parfois ne pas pouvoir les satisfaire toutes, tout le temps. » Alors, j'ai choisi un exemple. Vous êtes prof de français dans une classe de première professionnelle industrielle, de garçons qui ne raffolent pas du français, qui ne voient pas très bien à quoi ça sert ce truc-là, qui manquent de vocabulaire, qui n'ont pas de goût particulier pour la discipline. Et vous vous trouvez devant la problématique obligatoire. Comment l'imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage à l'opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle? Voilà. Donc, il va falloir forcément confronter cette prescription, qu'on va dire ambitieuse, à ce que les élèves peuvent comprendre et surtout supporter. Parce que soyons clairs, c'est loin d'être des imbéciles et c'est pas la compréhension qui leur manque. C'est souvent le goût pour la chose. Donc, il va falloir inventer un détour pour les amener à se poser cette problématique et à tenter de la traiter. On le voit, la prescription, en fait, elle ne prend sens que réellement dans la confrontation du terrain. Et c'est la raison pour laquelle souvent, on parlait des inspecteurs tout à l'heure, dans ma discipline, souvent on aimerait bien que les inspecteurs ne jugent pas seulement notre travail à l'aune de sa conformité au référentiel, mais aussi en tenant compte de nos capacités à nous adapter aux jeunes qui sont en face de nous. Tout en restant, bien sûr, dans un cadre normatif. Voilà, donc la première séquence de l'année en première pro, eh bien, c'est du côté de l'imaginaire. Donc ici, c'est ma séquence, c'est ma séquence de l'an dernier que je vous livre avec les trois problématiques obligatoires. Donc la première qui est la problématique dans laquelle on pose le problème de la façon la plus proche des jeunes. Est-ce que, par exemple, la fable, le conte, les récits imaginaires sont réservés aux enfants ? Aux jeunes lecteurs ? La deuxième, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, qui est tout à fait littéraire pour le coup. Et puis la troisième, plus du côté de la réflexion, de la culture générale, le lecteur d'œuvres de fiction fuit-il la réalité? Alors le professeur va se dire, puisque j'ai choisi de lancer cette séquence en premier dans l'année, à l'issue de cette séquence, je veux que les élèves aient acquis quoi? Alors d'abord, on va reprendre par exemple des techniques comme la technique de travail en sous-groupe, la formation du groupe classe, on est en début d'année. Et puis on va en profiter pour lancer concrètement un fil rouge, une cohérence sur l'ensemble du programme de français, histoire, géographie, en lançant un court-métrage qui s'appelle L'île aux fleurs et qui contient, miracle, tout tous les thèmes d'histoire, géographie, d'instruction civique et de français de l'année. Et puis, le cœur de la séquence, c'est qu'on va amener le jeune à réfléchir aux différents niveaux d'interprétation d'un texte. Et puis, on va reprendre aussi les concepts de base. On est en début d'année, ce qui a été étudié l'année d'avant et qui sont des concepts de base de la discipline. On va approfondir des notions essentielles concernant l'étude de la langue et le lexique. Et puis, réviser la technique du débat à l'oral et la rédaction argumentative à l'écrit. Voilà, il y a de quoi faire pour une séance qu'on va appeler majeure, effectivement, qui va un peu dépasser les 6 semaines et qui sera reprise en fin d'année, juste avant l'examen, par une séquence mineure sur une œuvre intégrale à propos de la sortie, l'arrache-cœur, le film... Donc j'avais prévu, puisque le film devait sortir au printemps, j'avais prévu en avril-mai reprendre cette séquence pour, avant l'examen, la rappeler quelque peu aux élèves, parce qu'on sait que les séquences de début d'année, en fin d'année, il y a une déperdition un petit peu considérable. Voilà donc cette séquence sur laquelle il y a des séances dominantes orales, lecture. Celle-ci, là, elle est interdite absolument. Voilà. Donc les vieux profs se permettent comme ça de violer les prescriptions, hein. C'est-à-dire que il y a une séance d'étude de la langue dans laquelle, à partir d'un texte, bien sûr, hein, il y a aussi dans cette séance de la lecture, de l'oral et de l'écriture, mais je vais essayer de construire en une fois, d'une façon qui me paraît plus efficace, des notions essentielles en termes de lexique, en sachant que, effectivement, théoriquement, je n'ai pas le droit de faire une séance à dominante étude de la langue. Donc, ce que je respecte, c'est les objets d'étude et les problématiques, elles sont obligatoires, les notions à transmettre, le décloisonnement intradisciplinaire, sauf pour une séance, j'ai déjà plaidé coupable, les modes d'évaluation, puisqu'on reprend en général, on les prépare tout simplement aux épreuves qu'ils vont avoir en fin d'année, puisqu'il y a une épreuve de français ponctuelle en fin d'année. Ce qui n'a pas été respecté, c'est, à part la petite exception là, de l'étude de la langue, c'est la durée. C'est-à-dire que c'est, on nous dit maximum 6 semaines, c'est une séquence qui va largement m'amener aux vacances de Toussaint parce qu'elle a commencé par un petit film qui va installer tout mon programme de l'année, parce que on va reprendre des capacités de travail en équipe, des techniques, etc. Et donc là aussi je m'autorise une petite exception. Deuxième exemple que je prends, un exemple d'histoire. La question de la marge de manœuvre se pose aussi. Les sujets d'études sont obligatoires. Donc là, c'est uniquement le programme d'histoire. Il y a la même chose en géographie et en instruction civique. J'ai fait un choix parce que par manque de temps. Donc, les objets d'études sont obligatoires. Par contre, pour chaque objet d'études, on a le choix entre 3 situations. Et puis, on a une orientation précise et des mots-clés. Donc je vais choisir là aussi arbitrairement être ouvrier en France et on constate que ces sujets d'études d'ailleurs poursuivent des finalités d'ordre identitaire, intellectuel et civique. Voilà donc à gauche le programme officiel, à droite ma séquence et... Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je vais vous dire que pour un professeur, quand on voit déjà dans cette colonne-là qu'il va falloir apprendre aux élèves ce qu'est la culture ouvrière et surtout leur faire comprendre ce qu'est la conscience de classe et le processus d'intégration républicaine, on se dit la difficulté, notion très abstraite, pas facile à enseigner et par conséquent, eh bien, le professeur va construire sa séquence, faire des choix didactiques en fonction de ce qu'il repère comme étant, j'allais dire, un hiatus entre l'ambition du référentiel et non pas le niveau, toujours, j'insiste, c'est pas que nos élèves n'aient pas le niveau pour comprendre, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête, comme ils nous disent, sur des questions comme celle-là. Voilà, là, en blanc, vous avez la suite du référentiel, donc sur 2 pages, et on peut noter que sur ces deux pages, on a 10% de programme. Hein, le programme, c'est ça. Et le reste, c'est du cours. C'est du cours pour le prof. C'est-à-dire qu'on nous dit comment il faut comprendre le sujet. On nous dit comment il faut comprendre cette thématique, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que le prescripteur, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, hein, je dis le prescripteur parce que les programmes sont toujours anonymes, hein, on ne sait pas qui les signe. Donc le prescripteur part du principe que peut-être certains professeurs, surtout avec la polyvalence, hein, on n'est pas tous historiens, moi je suis littéraire d'origine par exemple, et obligé d'enseigner l'histoire et la géographie. Donc le prescripteur se dit que si nous faisions quelques petites révisions sur cette période et sur cette notion, ce serait peut-être pas du luxe, pour ça d'ailleurs qu'il nous indique quelques ouvrages savants et quelques films ou quelques sitographies qui pourraient être utiles. Puis la deuxième raison aussi, outre nous inciter à faire des révisions, qui sont bien utiles souvent, il faut s'approprier, on va dire, le sujet, c'est aussi pour être sûr que l'enseignant va aborder cette question dans l'esprit et selon le modèle historien qui est choisi par les prescripteurs. Alors on notera par exemple ici, hein, dans les grandes théories d'histoire, qu'on ne tranche pas franchement entre l'approche chronologique et l'approche thématique. On a une approche qui essaie de mêler la vision historique et chronologique et thématique de l'histoire. Alors, l'enseignant donc s'approprie ces instructions officielles avant de se livrer à une activité, on va dire, de reconception que René Amick définit ainsi. L'écart entre le prescrit et le réalisé n'est pas vide. Il est plein d'une activité professionnelle saturée par des dimensions collectives et une forte mobilisation individuelle. C'est dans cet écart que les professeurs conçoivent des outils, des dispositifs nouveaux. Le professeur qui va devenir l'exécutant de sa propre conception. Donc là, je vous livre ma séquence d'histoire sur ce thème, la condition ouvrière de 1830 à aujourd'hui. Et puis, donc je précise que le sujet d'étude est obligatoire. Donc voilà, je choisis juste de le prendre en début d'année. C'est un choix, je suis dans un lycée industriel, c'est un sujet qui intéresse peut-être plus particulièrement les garçons. Il y a une fille dans la classe, et puis je ne vais pas en début d'année, alors que je ne les connais pas encore, aborder la question qui est ensuite au programme de la condition féminine, qui risque d'être un petit peu plus ardue. Donc je décide de commencer d'une façon peut-être un peu plus confortable par ce sujet plus intellectuel de la condition ouvrière. Par contre, contrairement aux Français, là, c'est à moi de trouver la problématique. La problématique ne m'est pas imposée, donc je choisis, mais qu'est-ce qui fait évoluer la condition ouvrière depuis le 19e siècle ? J'ai trois situations au choix. Je vais choisir la grève de Carmaux et Jean Jaurès. D'abord parce que je veux m'appuyer sur le film La naissance d'un géant, et qui comporte à peu près tous les thèmes au programme de l'année, et puis en histoire, et qui aussi permet sûrement d'approcher ces deux concepts difficiles que sont la conscience de classe, par exemple, et l'intégration républicaine. On m'indique les orientations et les mots-clés. Par contre, c'est à moi d'instaurer, de trouver les situations pédagogiques qui vont me permettre de traiter ces orientations et ces termes, ces mots-clés que vous avez à gauche en bleu. Donc, quel temps d'exposition, je les place où, ils durent combien de temps, à quel moment, en amont ou en aval de l'exercice, des exercices à visée d'imitation, résolution de problèmes, jeux sérieux, projets, détours, jeux de rôle, recherche documentaire, débat, réalisation d'un support particulier, d'une affiche, un travail collectif, individuel, binôme, sous-groupe, tout ça relève du choix de l'enseignant. L'évaluation est peu abordée dans le programme, mais c'est normal parce qu'en réalité c'est une année d'examen et forcément les enseignants vont calquer leurs évaluations sur les annales, les sujets d'annales, de façon à préparer le mieux possible les élèves à ce qui les attend à la fin de l'année. Alors on le voit dans ces programmes, le grand absent c'est l'apprentissage. À aucun moment dans ces programmes on ne nous dit comment on va accrocher l'élève, l'intéresser, l'amener à se poser ses questions, provoquer chez lui la compréhension et l'appropriation des techniques, des notions, développer des capacités, comment l'aider à trouver ses propres moyens d'apprentissage, sachant que toute sa vie, il va devoir apprendre par lui-même. Et que apprendre à apprendre est important. Je rappelle que c'est la seule compétence européenne qui n'a pas été reprise dans le socle commun. Apprendre à apprendre. Et de la même façon, on le voit bien ici dans les programmes, ce n'est pas présent. Je ne suis pas la seule à le remarquer. François Danielou évoque une prescription infinie des objectifs et une sous-prescription totale des moyens pour les atteindre. Philippe Pernoud dit aucune conceptualisation partagée de la manière dont les savoirs se construisent dans l'esprit des élèves, ou Roger-François Gauthier nous dit que les programmes sont plus tournés vers un idéal d'enseignement que vers une effectivité d'apprentissage et ne se prononcent ni sur l'outillage matériel nécessaire, ni sur les questions d'évaluation, ni sur le niveau d'atteinte attendu des élèves. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, parce qu'en fait, c'est parfaitement justifié. Si les moyens de faire apprendre ce qu'on nous demande de leur faire apprendre aux élèves ne sont pas précisés, c'est tout simplement parce que c'est notre cœur de métier. C'est la professionnalisation enseignante dont Sabine Coste nous parlait tout à l'heure. Normalement, le professeur a appris en formation initiale et puis apprend toute sa carrière à transférer, à didactiser les programmes. Et par la formation continue, quand je dis la formation continue, c'est pas seulement apprendre les changements de programme et les mises à jour des contenus, mais une vraie formation continue, c'est-à-dire qui passe par le travail en groupe dans son établissement, par le travail inter-établissement sur des groupes de recherche-action, par exemple, par la lecture d'ouvrages, d'articles, de revues, par la participation à des stages. Donc, tout se passe comme si le programme répondait à quoi et pourquoi, et l'enseignant à comment. La prescription ne dit pas tout, et l'enseignant est amené à faire plus que ce qui est prescrit pour amener les élèves à atteindre le niveau de compétence qui est demandé. Ne serait-ce que par loyauté par rapport à nos élèves, pour leur rendre accessibles ces compétences à acquérir, eh bien, nous devons adapter dans une logique qui n'est pas seulement une logique applicationniste. Alors, je vais mettre le projecteur sur deux points de cette séquence, parce que j'ai pas le temps de la prendre en entier, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, les questions que se pose un professeur et les choix qu'il fait dans ces matières. Je prends par exemple, ça c'est le BO, j'ai entouré et jauni quelques croix, on est en première, et concernant le repérage dans le temps, eh bien nous devons apprendre aux élèves à dater des faits importants relatifs à la situation, la condition de l'ouvrier, dater des faits et les situer dans un contexte chronologique, situer des faits les uns par rapport aux autres, distinguer temps long, temps court, et identifier continuité et rupture en histoire. Un professeur, il se dit, qu'est-ce que je vais inventer comme activité pour l'élève pour qu'il puisse acquérir tout ça? Bon, c'est un choix. Le choix que j'ai fait, c'est de faire construire par les élèves une frise chronologique thématique de la condition ouvrière. En me disant, ça va l'amener à se poser la question, la condition ouvrière, ça commence où, ça se termine où, en fonction du thème. Quel fait je retiens parmi tous les faits dont on va me parler dans cette séquence-là, lesquels me paraissent essentiels, donc on va hiérarchiser, distinguer les faits ponctuels, représentés par des flèches, les durées, par des couleurs, et puis l'utilisation d'une légende. Une légende qui va distinguer les révoltes ouvrières, les actions ouvrières, les prises de position des intellectuels et les avancées sociales. Ce qui est finalement la façon de répondre à la problématique, mais qu'est-ce qui fait avancer la question ouvrière, la condition ouvrière. Alors une fois qu'on a décidé ça, il reste encore à opérationnaliser l'activité, c'est-à-dire décider du degré d'accompagnement, de guidance pour chaque élève. Est-ce que je vais faire travailler les élèves en binôme, en sous-groupe, individuellement? Quel accompagnement je vais amener à chacun en fonction de ses besoins? Deuxième opérationnalisation importante, comment faire pour que l'élève ne confonde pas la tâche qu'il a à réaliser, la couleur à mettre, les flèches à tirer, avec ce qu'il est amené à comprendre, c'est-à-dire l'exercice intellectuel qui est derrière? Comment est-ce que il faut qu'il donne du sens à cet exercice, c'est pas un dessin, il doit correspondre à des éléments de réflexion qui vont l'amener à traiter la problématique finalement qui est le fil rouge de la séquence. Alors voilà à quoi peut ressembler effectivement cette frise chronologique par exemple. Alors je prends un deuxième exemple. Bien dans le BO, on nous indique, on présente la formation d'une conscience de classe à travers les luttes sociales et politiques. Bon, le prof là, il se dit, bon d'accord, si je leur fais apprendre par cœur la définition de conscience de classe, les plus studieux vont me la réciter. C'est pas vraiment le but de l'opération. Ce que je voudrais, c'est vraiment qu'ils s'approprient la notion, et c'est un concept qui n'est pas simple. Donc j'ai fait là encore un choix. Mon choix didactique, qui est de partir d'extraits de films. Et à commencer par un extrait de film de fiction, qui s'appelle « Ressources humaines » de Laurent Cantet, dans lequel on voit en mai 68 un fils devenu ingénieur dans une usine, reproché à son père de ne pas faire la grève, reproché à son père ouvrier de base de ne jamais lui avoir transmis la fierté d'être ouvrier, mais au contraire de lui avoir appris la honte d'être ouvrier. C'est un petit, c'est très court, mais c'est violent émotionnellement, et du coup les élèves réagissent et rentrent dans le sujet et rentrent dans le sujet par l'émotion d'abord. Le travail là encore de l'enseignant, ça va être d'amener l'élève de l'émotion à la réflexion. Ah oui, mais alors quand il dit ça à son père, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et petit à petit, on va l'amener à verbaliser cette définition de la conscience de classe. Ensuite, avec des documentaires un petit peu plus intellectuel qu'émotionnel, trois classes sociales au Creusot, où on voit successivement l'instituteur, l'ouvrier et le patron parler des forges, et puis un reportage sur les ouvriers des forges d'Audincourt qui parlent de leur vie et de leur métier, où là on va avoir tous les exemples de qu'est-ce que c'est que la vie des ouvriers, la culture ouvrière, hein, puisqu'on nous demande de faire comprendre aux élèves ce qu'est la culture ouvrière. Donc on voit les loisirs, les jeux de cartes, le jour de la paye, l'ardoise chez l'épicier, voilà. Et puis une interview d'un syndicaliste de l'industrie automobile qui, pour fêter les 30 ans de mai 68, regrette qu'on attribue toujours tous les mérites de 68 aux étudiants et pas à la classe ouvrière qui a tant fait pour la société dans son ensemble. Et à partir de ces éléments, on va, par glissement, petit à petit, amener les élèves à choisir dans les films, dans les extraits de films qui dépassent jamais 6-7 minutes, choisir les éléments qui vont lui permettre de répondre à la question qu'est-ce que c'est que la culture ouvrière, qu'est-ce que c'est qu'une conscience de classe. Puis à la fin, on en profite aussi pour faire préparer le transfert par un petit exercice métacognitif, c'est-à-dire comment j'ai fait pour répondre à une question en partant d'un film, et quel trajet j'ai fait de l'émotionnel à comment j'ai réussi à verbaliser finalement une définition à partir d'une réaction un petit peu émotionnelle au premier film. Voilà, donc si je schématise, pour terminer cet exposé, si je schématise la question de l'application des programmes, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein, parce que le programme, ce n'est que la manifestation des enjeux de la formation, c'est-à-dire qu'on construit une culture commune, une citoyenneté. L'élève s'approprie aussi des notions, des savoirs, des compétences pour l'insertion professionnelle, mais aussi pour passer les diplômes. La mise en application, la mise en œuvre, elle est entre liberté pédagogique et application stricte, elle est entre dosage entre risque et sécurité, responsabilité collective ou individuelle. On voit aussi que pour respecter l'interdisciplinarité et le décloisonnement, il faut une solide formation. On a vu tout à l'heure que ça n'allait pas toujours de soi. On a aussi, selon le niveau de la classe, des choix à faire entre assurer les bases et puis boucler le programme. La gestion du temps est importante, hein, finalement, on entend faire le programme. Avec une progression régulée, une hiérarchisation des priorités et puis une posture didactique dont on doit répondre devant le corps d'inspection, les adaptations, les choix dont on a parlé tout à l'heure et j'ai beaucoup insisté sur la formation des enseignants parce que je pense que pour mettre tout ça en synergie, on a besoin d'une solide formation. Donc en conclusion, je réponds pour moi, hein, ça n'engage que moi, pour équilibrer judicieusement le respect des directives et l'autonomie professionnelle, bah, il y a d'abord une formation initiale et continue robuste. Ensuite, un travail en équipe des enseignants pour, j'allais dire, diluer la responsabilité, mais je le dis positivement. Un mode de gouvernance qui s'attacherait davantage à l'esprit qu'à la lettre, dans lequel les inspecteurs nous reconnaîtraient, comme le disait d'ailleurs Sabine Cosse tout à l'heure, on voudrait bien qu'on nous reconnaisse une expertise de terrain, surtout quand on a un petit peu d'expérience et qu'on a eu la chance d'être enseignant à une période où la formation était solide. Et puis aussi peut-être que le corps enseignant soit davantage associé à l'élaboration des programmes, de programmes qui soient plus dans l'interdisciplinarité, moins interne au cadre disciplinaire et moins chargé. Voilà. On nous dit qu'un programme n'est enseignable que si la profession s'en empare. J'aime bien l'expression de la collègue belge qui dit « rendons au professeur ce qui appartient au programme ». Moi je dis comment éduquer les jeunes à la responsabilité si nous-mêmes nous n'assurons pas la responsabilité de notre enseignement. Voilà. Il me semble que il est important que nous nous investissions et que nous prenions des risques dans l'exercice de notre métier.